Allô tout le monde! Donc, dans le cadre de l'activité de transfert de connaissances au sein du RQR, on a la chance de rencontrer Mélodie Desnoyers, qui est une étudiante à la maîtrise dans le laboratoire du Dr Claude Robert à l'Université Laval, avec une co-directrice qui est Dr Géraldine Delbès de l'Institut national de la recherche scientifique. Peux-tu me parler un peu de toi, d'où tu viens et comment tu t'es rendue ici?
Oui, donc salut, merci pour la belle introduction en commençant. Alors moi, je suis maintenant déjà à Québec depuis déjà presque un an pour faire ma maîtrise, mais je viens de la région de Gatineau, qui est une ville qui est tout près d'Ottawa, et j'ai passé 3 années à l'Université d'Ottawa pour y faire mon baccalauréat spécialisé en biologie.
Ouf, ok, Ottawa, wow! Donc, comment ça t'es décidé de venir à Québec? C'est quoi qui a motivé tes choix?
Ouais, donc effectivement, c'était quand même un bon changement pour moi, même si c'est pas tant loin que ça finalement. Donc, en fait, la biologie, ça m'avait toujours intéressée puisque c'est un domaine qui va nous permettre d'expliquer le monde qui nous entoure et c'est ce qui avait initialement piqué ma curiosité. Donc, après mon bac, j'ai décidé d'évaluer mes options et j'ai finalement choisi la reproduction pour aller me spécialiser. Puisque je trouve vraiment incroyable le travail qui est fait en procréation médicaments assistés chez l'humain et j'espère pouvoir un jour apporter mon aide en clinique de fertilité.
Mais là, comment ça t'as décidé que tu partais d'Ottawa puis que tu t'en venais dans le laboratoire de Claude? Comment ça, autant de kilomètres, là, faut que tu m'expliques, je veux comprendre.
Ouais, donc dans le fond, j'avais choisi le laboratoire de Claude parce que ça me permettait d'aller étudier la reproduction au niveau de la femelle. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour moi d'aller accumuler mes connaissances tout autant théoriques que pratiques pour éventuellement aller sur le marché du travail.
Donc, comment tu trouves ça présentement dans son laboratoire, là? Est-ce que c'est le fun? Comment tu trouves la dynamique entre tes collègues et toi? Parle-moi de ça un peu, s'il te plaît.
Oui! Donc, dans le fond, je trouve ça vraiment le fun puisque ça fait changement des études que j'avais fait auparavant. C'est beaucoup plus indépendant, puis ça va nous permettre de développer en fait toutes sortes de compétences au niveau du travail, comme par exemple la gestion de son propre projet. Donc aussi un grand plus qui est d'être dans notre équipe de labo, c'est qu'on est entouré de personnes qui sont super compétentes, puis elles ont toujours des bonnes informations à transmettre sur nos projets. Elles sont aussi toujours là moralement, surtout quand nos expériences ne tournent pas nécessairement comme on le pensait initialement, ce qui arrive pas mal plus qu'on pense quand on commence à développer un projet de recherche, je dirais.
Wow, mais moi, t'as vraiment l'air de vivre un rêve, là, rien de moins. Ça donne le goût. Je pense en fait que je change de carrière dès demain matin, puis je m'en vais aux études gratuites. T'as bien vendu ça, c'est incroyable. Donc, comment que... C'est beau, là, tout ce que tu me dis là, tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Moi, ce que je me demande, en fait, c'est la partie théorique de ton projet de recherche, de où tout ça est parti.
Oui, donc en fait, pour commencer un peu l'introduction de ce que je fais au laboratoire, donc on s'intéresse entre autres à comprendre en fait ce qui va pousser un ovocyte.
Ouf, ok, tu me parles d'ovocyte là, tu viens de me perdre là, faut pas aller trop vite. Qu'est-ce que ça mange en hiver?
Ouais, ben je comprends. En fait, un ovocyte, c'est un ovule qui est immature. Donc nous, on s'intéresse à comprendre comment celui-ci est capable de devenir un bon ovule, capable d'être fécondé et de devenir un jeune embryon. Donc, un ovocyte, en fait, ça se retrouve au sein d'un follicule ovarien qui est comme une enveloppe, je dirais, qui va permettre la croissance et la maturation de l'ovocyte. Et les follicules, ça se retrouve au sein des ovaires chez les mammifères.
OK, mon Dieu, c'est intéressant, là. Fait que si je comprends bien, si j'ai bien suivi, c'est une cellule qui comprend le matériel génétique de la mère pour être transmis à sa progéniture.
C'est exactement ça.
OK, parfait, j'ai suivi, c'est merveilleux. Donc là, c'est quoi le but, en fait, de regarder tout ça?
Oui, donc dans le fond, mes travaux, donc on s'intéresse vraiment à comprendre la croissance de l'ovocyte dans le follicule ovarien. Donc durant sa croissance, l'ovocyte est en contact étroit avec les autres cellules et celles qui sont à proximité ont même des extensions cellulaires qui sont comme des petits tuyaux qui vont permettre de traverser la zone pellucide qui est la coquille autour de l'ovocyte pour rester en contact physiquement avec lui. Donc, des travaux précédents au laboratoire ont démontré que ce réseau entre les cellules, donc un réseau qu'on appelle intercellulaire, est important pour l'ovocyte. Sur le plan de sa structure, ce réseau d'extension cellulaire va ressembler à un réseau de co-neurones qui permet des échanges intercellulaires comme le font les synapses du cerveau.
OK, donc tu me parles là, des ovocytes qui contiennent le matériel génétique de la mère et ensuite tu me parles d'une coquille qui l'entoure puis qui s'appelle la zone pellucide. Puis en plus de ça, il y a même des tuyaux qui traversent cette zone-là et qui connectent les cellules qui sont autour de l'ovocyte. Donc au final, ça va permettre l'échange de matériel entre les cellules.
C'est vraiment ça, t'es super bonne!
Ouh, on se comprend! Donc là, il faut que tu m'expliques c'est quoi qu'il y a d'intéressant là-dedans. Pas que ça m'intéresse pas, mais explique-moi là, qu'est-ce que vous allez étudier là-dedans.
Ouais, donc de où ça partit un peu tout ça? Donc il est déjà connu que plusieurs facteurs de croissance neuronaux sont présents dans l'ovaire. Donc ces facteurs-là, c'est des molécules, des hormones qui vont favoriser la croissance. Même que leur dérégulation s'est associée à des pathologies, entre autres des troubles d'infertilité chez la femme.
Bon, ben là, maintenant qu'on a démystifié tous ces beaux concepts-là, j'imagine que vous avez une hypothèse de travail qui vient avec ton projet de recherche. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus en profondeur?
Oui, donc mon projet va s'articuler autour de l'hypothèse que ces hormones jouent un rôle pour établir et faire fonctionner le réseau intercellulaire qui est essentiel pour l'ovocyte. Donc, on s'intéresse à savoir si les effets de ces hormones-là vont passer par une modulation de l'expression des protéines reliées au syndrome du X fragile ou, pour faire plus simple, les protéines qu'on appelle les protéines FXR. Donc, elles sont constituées d'une famille de trois membres distincts. On a FMRP, FXR1P et FXR2P. Et ces protéines sont capables d'aller lier les ARN messagers et elles vont contribuer à la formation du réseau neuronal dans le cerveau. Donc, un ARN messager, pour faire simple, c'est un message codé qui, une fois lu, va permettre de former des protéines. Donc, les protéines qui nous intéressent sont aussi retrouvées dans l'ovaire, mais leur rôle reste à être élucidé.
OK, mais là, pourquoi vous voulez étudier le syndrome du X fragile, en fait?
Oui, donc on s'intéresse à ce syndrome, puisqu'il y a déjà d'autres chercheurs qui ont découvert qu'une dérégulation d'un des membres de cette famille, donc ici FMRP, va amener divers troubles chez l'humain allant d'une variété d'handicaps intellectuels et émotionnels au syndrome de tremblement ataxie et à l'insuffisance ovarienne précoce.
Wow, OK, ça m'a l'air vraiment compliqué tout ça. Vous allez faire comment pour étudier ça?
Oui, donc on va utiliser un modèle. Donc notre modèle, ça va nous permettre d'utiliser des souris en fait qui sont modifiées génétiquement pour aller inactiver les gènes qui nous intéressent. Donc ici, on s'intéresse à FMR1 qui va produire FMRP qui est l'acteur dans la maladie du X fragile et on s'intéresse à FXR2 qui pourrait avoir des fonctions similaires et compenser pour la perte de FMRP. Donc, en allant inactiver les gènes de certaines souris, ça amène une perte de la production de leur protéine correspondante. Et en comparant avec des souris normales, on va pouvoir aller déduire certaines de leurs fonctions au sein de l'ovaire.
Mais vous allez faire comment là, pour vous y prendre concrètement en laboratoire? Comment vous allez réussir à faire ça?
Oui, donc pour faire ça au laboratoire, en fait, la première partie de mon projet, ça va être de réaliser des cultures de follicules ovariens. Donc, on peut isoler les follicules des ovaires par dissection et c'est là vraiment que la culture va commencer. Donc, on peut aller placer les follicules qui ont été isolées individuellement dans des billes de gel pour essayer de mimiquer l'environnement d'un ovaire en laboratoire. Et ensuite, on va déposer les follicules qui ont été isolées dans une plaquette avec des trous qu'on appelle des puits. Et les puits vont contenir un liquide contenant les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance et le développement des follicules.
OK. Tu me parlais, en fait, de facteurs neuronaux précédemment. Comment vous allez faire pour étudier ça au niveau de la culture folliculaire?
Donc, pour étudier les effets des hormones de croissance neuronale, je vais les ajouter à certains des puits et ça va nous permettre de pouvoir comparer avec d'autres puits qui sont des puits de contrôle sans le facteur traitement, en fait, donc sans les hormones qui ont été ajoutées.
Mais comment vous allez faire pour mesurer si ça a eu un impact ou non?
Pour ce faire, en fait, au début de la culture, je vais mesurer la taille des follicules et en les laissant croître pendant un certain nombre de jours, je vais pouvoir ensuite les remesurer à la fin et ça va nous permettre de savoir s'il y a eu un effet des hormones sur la croissance folliculaire.
C'est merveilleux, vous avez vraiment pensé à tout. Écoute, j'ai une autre question. Comment tu vas aller voir si elles ont eu un effet sur les protéines de FXR?
Oui, donc pour cette partie, on va aller utiliser les différents modèles d'inactivation des gènes dans l'étude et si ces gènes sont impliqués directement ou indirectement dans la réponse des follicules aux facteurs de croissance neuronaux, leur perte par inactivation va aller inhiber leur effet. Mais là, j'imagine peut-être que tu vas me demander de quel effet, en fait, je parle.
Tu m'enlèves les mots de la bouche, ça n'a pas de bon sens, Mélodie.
je veux un petit peu le dire. Ouais. Donc, on cherche vraiment à établir le rôle des hormones sur l'établissement du réseau intercellulaire. Donc, on sait déjà que les protéines effecteurs vont jouer un rôle dans le nombre d'extensions cellulaires, donc les petits sillons qui vont toucher l'ovocyte. Pour étudier ce réseau, on va aller le détecter par marquage fluorescent des filaments d'actine, qui est une des substances constituant le réseau. Aussi, on va déterminer l'expression des gènes dans nos échantillons par une technique de séquençage d'ARN. Donc, on va faire du RNA-seq pour les gens qui se connaissent peut-être un peu.
Mon Dieu, c'est vraiment très intéressant tout ce que tu m'as dit là, Mélodie. Maintenant, j'aimerais ça que pour, en fait, nos nombreux auditeurs, j'en suis certaine, que tu nous expliques en quelques phrases les objectifs de ton projet.
Donc, mes travaux, au final, ça va viser à déterminer si les facteurs de croissance neuronaux, donc les hormones, vont influencer la croissance folliculaire et si cet effet passe par les protéines effecteurs qui, en fait, gouvernent l'établissement du réseau intercellulaire. Donc, cette information-là, c'est important puisque les ovocytes de mauvaise qualité se caractérisent par un réseau moins développé et que personne ne sait vraiment comment l'améliorer présentement.
Là, j'ai une question à 100 $, Mélodie. Je ne sais pas si tu es prête. Donc, tu me parles là, des souris depuis tantôt, mais est-ce que toute la recherche que tu fais, ça serait applicable chez l'humain?
Oui, donc la partie applicable à l'humain, en fait, c'est que dans les cliniques de fertilité, les protocoles de stimulation ovarienne sont basés sur les hormones de la FSH et la LH, mais on ne sait pas comment, présentement, elles influencent l'établissement du réseau intercellulaire. Donc, avec une meilleure compréhension des mécanismes impliqués, il serait peut-être possible d'aller éventuellement adapter les protocoles pour stimuler l'établissement du réseau de communication entre les cellules folliculaires et l'ovocyte.
Wow, OK. Donc, c'est vraiment, concrètement, ça pourrait très bien s'appliquer chez l'humain. C'est super. C'est tout ce que tu nous apprends aujourd'hui, Mélodie. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous puis expliquer tout ton beau projet. J'en ai appris énormément. Je vais définitivement me coucher moins niaisée ce soir. Merci encore une fois. Merci aussi à tous nos auditeurs pour leur écoute et qui sait, peut-être à la prochaine.
Mais merci beaucoup à toi. Puis merci de la belle opportunité de pouvoir partager mon projet. Donc, peut-être à la prochaine.
Oui.